déjà.
Très bonne, formidable.
Bon.
On a tout. On mangera ça. Merci. Je ne sais pas si certains ont profité des propositions pour la veillée, que ce soit la proposition de veillée prière du diocèse, pardon, ou la méditation avec la Sainte Vierge.
Oui, c'était jolie la méditation.
Oui, vous avez pu la regarder, d'accord, et à prier surtout. Alors pour ce matin, le Père Claude nous propose un texte qui sera, si j'ai bien compris, le support de votre intervention, Père Claude.
Oui, si vous pouvez l'avoir sur vos écrans, c'est bien.
Voilà, alors peut-être, est-ce que ça va si on le met en partage d'écran au moment où il y en a besoin?
Oui,
dès le début, même, et bien ça vient. Donc dès qu'on commencera, le mettre en partage d'écran, comme ça tout le monde pourra le voir, ceux qui sont appignolés en papier, mais pour ceux qui sont à distance, vous le verrez affiché à l'écran, comme ça suivre chacun facilement. Et bien peut-être que nous pourrions commencer par appeler l'Esprit Saint à nouveau pour qu'il dispose nos cœurs en ce dimanche saint. Ce deuxième dimanche de l'Avent, appeler la venue de celui qui vient, celui que nous attendons. Nous pouvons l'appeler avec le chant « Réjouis-toi car il vient ».
Réjouis-toi car il vient, les langues de l'Esprit, en bon désordre et la cour qu'il fait entendre sa voix, sort de la nuit dans un bois, je suis à toi. Réjouis-toi car il vient, les mots que je donne le tien, en bondissant et la cour, il me fait entendre sa voix, sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, mon toujours.
Alors, comme pour les autres interventions, je vais couper les micros de tous les participants pour qu'on entende mieux le Père Claude, et puis donc partager le but qui nous est proposé. Alors, est-ce que là, vous voyez le document?
Ah, bon. Je passe aussi la lumière pour avoir le document.
Est-ce que tout le monde le voit quand je me mets bien dessus?
Non.
Non.
Moi, je vois rien.
Vous voyez rien.
Ah, ben moi, je ne vois pas, mais...
Alors, ce que je vais faire,
c'est Marie-Hélène.
Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer par mail pour ceux qui ne le voient pas à l'écran. Hein, je l'envoie par mail en même temps, comme ça vous pouvez l'ouvrir par votre boîte mail. D'accord ?
Voilà,
c'est ça.
Donc, je vois.
Voilà, Père Claude, je vous laisse la parole pendant que je l'envoie par mail.
D'accord. Alors, nous commençons cette deuxième belle journée de la fête. On nous met maintenant le titre de nos entretiens. Finalement, c'est par lui, Jésus, que nous viennent tous les biens. C'est une parole de Sainte Azalia que n'importe qui d'entre nous aurait pu dire. Et nous allons réfléchir. ce matin sur finalement un aspect essentiel de notre vocation chrétienne, qui est dans le titre de notre entretien, développer une activité missionnaire avec Jésus. Parce que si nous avons tant parlé du Seigneur Jésus pour chercher son identité, pour découvrir aussi sa mission, c'est pour nous unir à lui et pour apprendre de lui comment vivre dans notre vie chrétienne elle-même. Et alors pour cela, je voudrais partir d'une question que nous nous posons très fréquemment, nous autres qui sommes à l'école du Père Marie-Eugène, et vous connaissez, c'était l'une de ses devises, vraiment le travail de toute sa vie. Quelle est l'articulation entre une vie de prière, une vie d'union au Seigneur, la relation verticale avec Dieu, si vous voulez, et puis notre tâche d'évangélisation, notre apostolat, notre action auprès des hommes. Quelle est l'articulation entre la contemplation et puis l'activité apostolique, l'apostolat? Quelle est la proportion que nous devons donner à l'une et l'autre activité dans notre vie? C'est une question qui a toujours passionné tous les saints. Et je me posais la question en lisant La joie de l'évangile du pape François, et je suis tombé sur ce texte que vous avez sous les yeux, et qui est une trouvaille, c'est le numéro 23 de La joie de l'évangile. Vous savez, c'est le premier grand document du pape François, La joie de l'évangile, numéro 23. Bon, c'est pas compliqué, ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux, c'est pas non plus difficile, je vais le lire de toute façon. Hein. Il dit, l'intimité de l'Église avec Jésus est une intimité itinérante. Et la communion se présente essentiellement comme une communion missionnaire. On va essayer de découvrir ce que ça signifie. L'intimité de l'Église avec Jésus est une intimité itinérante. Et oui, la communion avec Jésus est itinérante. La première remarque que nous devons faire, c'est que Jésus avait choisi un mode de vie itinérant. Ce n'était pas un rabbin fixé à une faculté de théologie et vers lequel convergeaient des disciples en provenance de tous les points du monde, Jésus. C'était un maître qui marchait avec ses disciples autour de lui et qui parcourait toute la région de Galilée et même il est allé en pays païen. Quand nous posons la question de l'union dans notre vie, de la prière et de l'action, nous voyons que la solution est inscrite dans ce que dit Saint Marc à propos du choix des douze par Jésus. Voici le texte que Saint Marc nous écrit, au chapitre 3. Il gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Et il en institua 12 pour être ses compagnons, pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Alors, la première chose que nous devons admettre, c'est que constamment, le Christ avait ses apôtres avec lui. Mais c'était dans une visée évangélisatrice. Jamais un cercle fermé. Évidemment, il leur expliquait en particulier les paraboles. Il les enseignait, il les formait particulièrement ce qu'ils devaient transmettre, ce qu'ils avaient entendu. Jésus annonçait qu'il devait aller dans un autre village. Et aussitôt, les apôtres le suivaient. Posez pas de questions, ils le suivaient, ils l'accompagnaient. Ils devenaient itinérants avec lui. Jésus formait ses apôtres en leur partageant sa vision des choses, sa manière d'aborder les gens. Et les apôtres étaient avec lui, et tous les gestes de Jésus, les apôtres y ont participé. C'était une communion ouverte, parce que Jésus devait porter la bonne nouvelle aux pauvres et former les douze à prolonger sa mission. Dans la première remarque, c'est donc celle-ci. Notre proximité avec Jésus est nécessairement missionnaire à cause de l'intention de Jésus. Si on aime Jésus, on communie à sa pensée, on va où il va, on pense comme lui. Et ceci ne changera jamais, c'est constitutif de la vie chrétienne. Donc, nous rejoignons Jésus pour être avec lui. Mais étant avec lui, nous communions à ses contacts avec les autres. Nous communions à sa compassion, à sa manière d'approcher les souffrants, les pécheurs. Nous développons son désir à lui d'annoncer la parole de Dieu. C'est ce que signifie l'expression « disciple missionnaire ». Le Christ nous fait participer à sa mission évangélisatrice. Il a appelé les douze pour être avec lui, pour vivre avec lui, pour qu'il reçoive de lui son souffle missionnaire, son élan, qui le portait à prendre contact avec tous, pas seulement les gens de son peuple, les Juifs, mais aussi les Samaritains, et jusqu'aux païens. Et quand Jésus invente la parabole du bon Samaritain, il décrit son âme, lui, son attitude. C'est lui qui se penche sur le blessé, laissé pour mort au bord de la route, qui le prend sur sa monture, qui en prend soin, qui le soigne, qui débourse. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Et quand il dit « Heureux les miséricordieux », c'est lui qui se donne en modèle encore. Et bien plus, il nous donne la force, la grâce de faire comme lui. Ce n'est pas une vague imitation lointaine. On reçoit de lui quelque chose quand on imite, quand on imite Jésus, on l'imite parce qu'il nous donne quelque chose de son âme, de sa vision. Et quand il dit Jésus de pardonner, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il nous donne de faire. Il faut aller jusque-là pour communier à sa vision, si nous prétendons être ses disciples. Vous voyez, intimité itinérante. Intimité itinérante. Nous marchons avec Jésus dans ses voies, dans son chemin. Nous communions à sa pensée. Ainsi donc, le Père a envoyé Jésus pour qu'il parle, et les apôtres qui étaient avec lui communiaient à sa pensée, de manière qu'ils parlent à leur tour avec les paroles mêmes du Seigneur, avec sa force à lui, une force performatrice, comme disait Benoît XVI. Une parole, la parole de l'apôtre, va devenir pleine de la force de l'Esprit Saint qui remplissait Jésus et qui remplira les apôtres au matin de la Pentecôte. Communion missionnaire. Intimité avec Jésus itinérante. On marche avec Jésus au point de communier à ses intentions. C'est très important. Fidèle au modèle du maître, dit le pape François, le modèle de Jésus. En effet, quand saint Thomas d'Aquin réfléchit à ce modèle du maître, quand il réfléchit à la manière de vivre de Jésus, saint Thomas remarque que Jésus a choisi de vivre pauvre. D'ailleurs, Jésus le dit, le Fils de l'homme n'a pas de pierre où reposer la tête. Il était évidemment de temps en temps accueilli dans la maison de la belle-mère de Pierre, à Capharnaüm, mais le reste du temps, il était sur les routes et il a passé pas mal de nuits à la belle étoile et les apôtres avec lui. Fidèle au modèle du maître, un modèle de pauvreté, il est vital, dit le pape François, qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. Toujours le numéro 23 de l'âge de l'Évangile. Eh bien, nous pouvons inscrire ce texte dans nos cœurs. Et nous en recevrons beaucoup de force. Car la mission de Pierre, la mission du pape François, c'est de confier ses frères à la foi et de leur donner de communier à son propre élan évangélisateur, à sa propre foi, à sa propre espérance inébranlable. Et quand il nous dit qu'il veut annoncer l'évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur, bien, nous communions à cette intention du pape. Je voudrais citer maintenant le paragraphe 86 de la joie de l'évangile pour nous aider à découvrir une autre dimension essentielle de notre vie de disciple du Christ. Le 86, vous l'avez aussi sous les yeux. Il est évident que s'est produite dans certaines régions une désertification spirituelle, fruit du projet de société qui vient de se construire sans Dieu ou qui détruisent leurs racines chrétiennes. Là, le monde chrétien devient stérile et s'épuise comme une terre surexploitée qui se transforme en sable. Dans d'autres pays, la violente résistance au christianisme oblige les chrétiens à vivre leur foi presque en cachette dans le pays qu'ils aiment. C'est une autre forme très douloureuse de désert. Même sa propre famille ou son propre milieu de travail peuvent être cet environnement aride où on doit conserver la foi et chercher à la répandre. Mais c'est justement à partir de l'expérience de ce désert, de ce vide, que nous pouvons découvrir de nouveau la joie de croire, son importance vitale pour nous, les hommes et les femmes. Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre. Arrêtons-nous ici. Je vous disais, Jésus a choisi le mode de vie pauvre. Il n'a pas de superflu. Quand on a de très gros bagages, on n'a plus de souplesse pour se déplacer. On est encombré. Intimité itinérante. Notre itinérance sera en fonction de nos bagages, de la légèreté de nos bagages. Non, il ne faut pas être encombré. Ce n'est pas le mode de vie de Jésus. Il dit dans Saint-Marc au chapitre 6, et il leur prescrivit, Marc nous dit, il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route de Pématon seulement, ni pain, ni levasse, ni menu monnaie pour la ceinture, mais allez chaussés de sandales et ne mettez pas de tunique. Quand on va à la Compostelle et qu'on va marcher 100 km, on emporte les strictes minimum. Et au début, on a encore des gros bagages. Et au fur et à mesure qu'on marche, on se déleste et on arrive au but avec le strict minimum. Dans le désert, dit le pape François, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel. Un peu de matériel, beaucoup d'amour du Seigneur, semble répéter le pape, et une grande confiance dans ce que je vais vous dire maintenant. Car c'est cela qui est capital, ce dont tout le monde a soif. Et il continue. Ainsi, dans le monde contemporain, les signes de la soif de Dieu, du sens ultime de la vie, sont innombrables, bien que souvent exprimés de façon implicite ou négative. Et dans le désert, il faut surtout des personnes de foi qui, par l'exemple de leur vie, montrent le chemin vers la terre promise et ainsi tiennent en éveil l'espérance. Dans tous les cas, en pareille circonstance, nous sommes appelés à être des personnes en forme pour donner à voir aux autres. Parfois, l'enfort se transforme en une lourde croix. C'est justement sur la croix que le Seigneur transpercé s'est donné à nous comme source d'eau vive. Ne nous laissons pas voler l'espérance. C'est très beau cette image de l'enfort. Elle vous fait sans doute penser à une autre image. Nous nous rappelons Jésus, debout dans le temple, disant à pleine voix, « Celui qui a soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'olive. Saint Jean précise, il parlait de l'Esprit Saint. Qu'ils boivent, celui qui croit en moi, des fleuves de vie jailliront de son sein. Ben, François est dans le vrai quand il dit que nous sommes des personnes en fort. Il ne faut pas nous prendre pour des fleuves d'olive, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, si tu reçois quotidiennement dans la prière l'eau vive de l'Esprit Saint que donne Jésus ressuscité, tu deviens à ton tour capable d'abreuver ce qui en soit de cette eau vive. Et tu ne peux pas te dessécher, même si tu traverses le désert. Tu es une personne en fort et qui porte l'eau dans les cas de grande nécessité. D'après le prophète Amos que nous avons lu dans ce soir, le Seigneur veut allumer dans les cœurs une grande faim d'entendre la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il faut être prêt à l'annoncer, cette parole, à tout instant, sans réticence, sans répulsion, sans hésitation, à toute occasion. Donner la parole de Dieu dans les gens en soif, dans leur désert, dans leur cœur desséché, près de mourir. Quand on suit Jésus, par une intimité itinérante, par une communion missionnaire, la mission ne vient pas de nous. Nous n'avons pas de l'inventer. Nous n'avons qu'à suivre l'initiative de Jésus, à entrer dans ses vues. C'est là la richesse de l'union avec Jésus. Et c'est pourquoi il faut fréquenter notre Bible, le Nouveau Testament, et prendre cette résolution de retraite bien humblement. Partout où il va, j'irai avec lui. Je ne prendrai pas, je ne prétendrai pas aller plus vite que lui, et je ne traînerai pas derrière lui non plus. Je le suivrai pas par là. C'est le maître. Il faut que je reçoive de lui l'influx, l'inspiration, pour parvenir peut-être un jour à dire, comme Saint Paul, parole subtile de Saint Paul, nous l'avons, nous, la pensée du Seigneur. Il dit ça dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 16. Nous l'avons, nous, la pensée du Seigneur. Alors je ne voudrais pas prolonger cet entretien. Nous avançons vers Noël, la grande joie, la venue du Fils de Dieu, Emmanuel. Et au cours de cette nuit-là, nous rejoindrons les bergers qui, dans la campagne de Bethléem, gardent leur troupeau. Et le pape François écrit à ce sujet, justement, au numéro 23. Vous pouvez remonter au numéro 23, si vous voulez. Il dit, la joie de l'Évangile est pour tout le peuple. Personne ne peut en être exclu. C'est ainsi que l'ange l'annonce au pasteur de Bethléem. Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. C'est une grande joie. C'est une grande joie de nous approcher de l'enfant Jésus. Alors, au cours de ces jours qui nous préparent à Noël, nous allons demander la grâce de fréquenter Jésus, de nous familiariser avec lui, avec sa pensée. C'est lui qui va nous donner sa pensée. C'est lui, lui seulement qui peut nous instruire de sa manière de faire, de sa manière de communier à son itinérance. Il va nous associer. Intimité itinérante. Pour devenir imperceptiblement, par notre union avec lui, par notre nous avec lui, grâce à nos raisons, grâce à la lecture divina, nous allons devenir imperceptiblement missionnaires avec lui. Je pensais à un texte de Prophète Vatican II, où dans le même gentil, les pères du Concile se sont exclamés devant l'extraordinaire pouvoir de Jésus. Ce pouvoir qui est en lui de former ses apôtres, de les entraîner, de les fidouze pour être avec lui et pour les envoyer prêcher, pour leur confier ses pouvoirs justement, pouvoir de chasser les démons, pouvoir de guérir les malades, pouvoir de ressusciter les morts, pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle. Tous ces pouvoirs que Jésus a communiqué à ses apôtres, ces pouvoirs aussi d'entrer dans sa pensée. Mais ce pouvoir qu'il a d'aimer le Père, d'aimer Dieu et d'aimer les autres, il nous le communique. Il le communique à ses disciples. Pour que nous soyons rétablis dans la vraie liberté. Et pour que, servant Jésus dans les autres, nous puissions les conduire jusqu'au roi. Parce que c'est ça, évangéliser. Évangéliser, c'est s'unir à Jésus de telle sorte que nous conduisions les autres à Jésus. Donc, prions les uns pour les autres pour que cette grâce nous soit donnée. Et que, à partir de cette retraite et jusqu'à Noël, il est autant possible de nous familiariser avec l'Évangile pour chercher Jésus, pour voir comment il réagit, pour voir comment il se déplace, pour voir sa manière d'aborder les pauvres, d'aborder les pécheurs. Qu'est-ce qu'il fait? Comment fait-il? C'est justement cela qu'il veut nous communiquer pour que nous devenions, de par notre union avec lui, par notre intimité avec lui, itinérant avec lui. Et c'est ainsi que se réalisera en nous, progressivement, cette synthèse merveilleuse, qui est inscrite dans notre grâce, dans notre grâce baptismale, entre la contemplation, la prière et l'action. Notre action dérive, pour ainsi dire, de notre union avec Jésus et de notre communion à sa pensée. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne la pensée du Christ. C'est l'Esprit Saint, au jour de la Pentecôte, qui a rempli les apôtres, qui présente vraiment de la vie de Jésus. Tous les événements de la vie de Jésus, ils les ont pu inscrits dans leur cœur. Et dans la puissance de l'Esprit Saint, ils ont commencé à diffuser le Christ, tel qu'il l'avait vécu avec lui, tel qu'il avait fait l'expérience de son intimité, de son amour pour les hommes. L'évangélisation n'est rien d'autre qu'un prolongement de la mission de Jésus. Et comme dit Saint Jean, que vous aussi, vous soyez en communion avec lui. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec ton Fils, Jésus-Christ. Nous sommes en communion avec le Fils, avec le Christ, avec le Père, avec l'Esprit Saint. Et cette communion, nous l'ouvrons. Le Christ nous a donné d'ouvrir cette communion à d'autres. Et la première expérience de cette ouverture, de cette extension de la communion avec Jésus que nous vivons, elle est de notre famille. Nos enfants sont les premiers bénéficiaires de cette ouverture, de cette itinérance, de cette intimité itinérante. C'est pas nouveau ce que je dis maintenant, j'insiste sur la partie du texte du Père François, mais la plupart des chrétiens disent cela constamment. Je parle des chrétiens qui sont fervents, vraiment, qui ont le souci d'aimer Jésus. Et le Seigneur les transforme petit à petit et leur donne la communion à ses propres, à ses propres intentions, à son propre mouvement, à sa propre charité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, avec ce pouvoir, que je vous communique. Que je vous communique par la puissance de l'Esprit Saint. C'est lui, l'Esprit Saint, qui continue de diffuser la pensée du Christ et la force pour la faire connaître, pour faire aimer le Christ. Alors peut-être que nous avons quelques minutes peut-être pour réagir par rapport à ce que nous disons maintenant. Je ne voudrais pas allonger trop, mais si vous avez quelques questions, quelques réactions par rapport à ce que nous disons, là,
si vous avez des questions, n'hésitons pas à réactiver le micro pour parler, hein, parce que là ils sont tous désactivés, donc vous appuyez sur la petite icône du micro si vous souhaitez poser une question.
Comment agir auprès des siens quand il y a un barrage difficile à franchir?
Voilà. Très bonne question. Voyez, le numéro 24 de notre texte du pape François, le numéro 24 qu'on n'a pas lu. L'Église, je l'ai dit avec vous, l'Église en sortie, et la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagnent, qui sacrifient et qui servent. Bon. Première erreur, prendre l'initiative. Veuillez m'excuser pour ce néologisme. Et il dit tout de suite, la communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative. Il l'a précédée par l'amour. Alors, ceci est très important. Parce que nous abordons Jésus. Nous voudrions être ses disciples missionnaires. Nous vivons dans son intimité et nous voulons le suivre. Bon. Mais le Seigneur a de multiples façons d'entrer dans les cœurs. C'est lui qui entrera dans les cœurs. C'est lui qui a eu l'initiative. Et c'est lui qui donne à l'Église de prendre les initiatives qu'il faut pour aller de l'avant, pour aller sans craindre, pour aller à la rencontre des autres, pour chercher ceux qui sont loin, vous voyez la suite du texte, et arriver au croisé des chemins pour inviter les exclus. Plus nous aurons cet esprit du Christ, plus nous communierons à son initiative, plus nous serons étonnés de voir que le Seigneur a l'initiative de l'évangélisation. Que c'est lui qui ramène nos enfants. Que c'est lui qui instaure la paix dans nos familles. Que c'est lui qui dispense la miséricorde et fait goûter la paix. Et nous communions. Regardez la dernière phrase. Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, l'Église vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Alors nous allons nous ravitailler jour et nuit au cœur de Jésus, à sa miséricorde, et développer, autant que possible, développer et supplier l'Esprit Saint de développer ce cœur miséricordieux qui patiente. Qui patiente. C'est la patience de Jésus qui est donnée à l'évangélisateur, surtout dans les conditions que vous avez évoquées. Mais nous pensons toujours que évangéliser, c'est rencontrer des portes ouvertes. Mais non, beaucoup de portes sont fermées. Mais c'est pas parce que les portes sont fermées que Jésus ne peut pas entrer. Voilà. Et justement, la prière, vous persévérez dans notre union avec Jésus qui nous communiquera la parole, le regard, l'attitude, le geste qui, petit à petit, montrera que lui est miséricordieux, que lui est patient, que lui est accueillant, que lui offre son pardon. Et si je peux faire voir cela, je serai heureux, parce que précisément je serai un vrai disciple, communiant vraiment à sa pensée la vie. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas si ça répond à votre question.
Donc, en partie, il y a suite. Mais garde-toi l'espérance, mais enfin, bon,
Est-ce que quelqu'un d'autre voulait apporter un élément de réponse aussi à Marie-Hélène?
Je dirais moi que je suis maintenant dans une maison de retraite avec des personnes très âgées, dont certains se prétendent alcooliques et sont toujours en état de gémir sur eux. Et je ne sais plus comment m'y prendre pour arriver à passer le message, etc. Parce que je ne vois pas quel mot toucher, pour les toucher. Mais je me dis qu'après tout, ce que vous venez de me dire me dit que peut-être que simplement en priant, je trouverai les bons mots. Parce que je ne sais pas comment faire.
Voilà. Le Seigneur ne nous donne pas des recettes miracles. Il travaille avec notre souffrance, il travaille avec notre faiblesse, et même, voyez-vous, il a même travaillé avec les chutes de Saint-Pierre. Mais plus nous faisons l'expérience d'être relevés nous-mêmes personnellement par Jésus, plus nous sommes compréhensifs par rapport aux faiblesses des autres. Et alors c'est justement cette compréhension qui traduit le regard de Jésus sur les autres, qui fait connaître la tendresse du Seigneur et sa patience. Ça va très très loin, cette intimité itinérante. Ça va très très loin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Bernadette par exemple. Bernadette, vous m'entendez? Mettez votre micro, Bernadette.
Oui, je vous entends. Vous m'entendez là?
Oui.
Oui, allez-y, complétez mes pauvres réponses.
Non, je vous écoute. Je venais d'appeler, je sais qu'elles font ces difficultés dans cette maison. Je pense qu'effectivement, la compassion, c'est quand même la première attitude. Cette compréhension, cette compassion de Jésus. Jésus était compatissant dans l'Évangile.
Aussi beaucoup d'écoute.
Oui. Oui. Merci. Merci pour ce complément. Beaucoup d'écoute. Accepter d'être cette poubelle parfois, qui reçoit pas un temps d'insultes, pas un temps de violence. Voilà. Le serviteur, Jésus est un agneau. C'est un agneau qui a été transpercé. Je n'ai pas abordé, bien sûr, on n'a pas abordé toute la dimension de la patience, de la souffrance, de la manière dont il a réalisé la rédemption. La plus grande souffrance et la plus grande force de son amour, bon, l'Eucharistie. Mais suivre Jésus, c'est le suivre jusqu'à Gethsémani. Et du coup, cette puissance qu'il avait d'absorber la violence, de s'en charger, et pour en décharger les épaules de ceux qui souffrent, ça c'est merveilleux. Et notre intimité avec Jésus nous fait, à l'égard de Dieu, nous rend vraiment ces victimes capables de nous offrir avec lui. Et dans cette misère incompréhensible d'une souffrance qui qui prennent le fardeau des autres, qui prennent le fardeau des autres. Ce malade, cet homme laissé pour mort au bord de la route, Jésus le prend sur ses épaules. Voilà, qu'est-ce que je fais? Eh bien, oui, je te prends dans ma prière. Et c'est difficile pour moi, je souffre de ce que tu me dis, je souffre de toute cette violence que j'entends de ta bouche, mais je me prends dans le cœur de Jésus. Et ça c'est très très important, il ne s'agit pas de porter notre croix sans Jésus. Ce n'est pas notre croix, c'est la croix de Jésus. Mon fardeau est léger, mon fardeau est léger. Si la croix est lourde pour nous, ce n'est pas le fardeau du Christ. Donc il faut laisser Jésus absorber cela. C'est lui qui est l'agneau de Dieu. Moi, je suis son outil, son instrument simplement pour mettre les autres en contact avec lui autant que possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Comme on termine, est-ce que vous avez quelque chose à dire?
Merci.
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 Oui, allez-y. Oui, vous pouvez vous entendre, mais allez-y.
On a tous le sentiment que tout s'écroule autour de nous. Comment tenir bon dans ce monde qui est vraiment très attaqué?
Vous êtes d'accord que nous autres, les amis du Seigneur, nous sommes les plus attaqués. Et l'attaque consiste surtout à nous décourager et à nous séparer de Jésus. Et alors, dans les périodes vraiment où nous sentons faiblir, sous la pression de tant de difficultés que nous n'arrivons même pas à identifier, eh bien, il faut prier davantage. Il faut suivre Jésus vraiment sur la montagne et lui dire bien humblement, apprends-nous à prier. Ça fait partie évidemment d'un aspect essentiel de la sequela Christi, de la suite du Christ, du compagnonnage avec lui, hein. Apprends-nous à prier. Et si nous ne refusons pas constamment dans la prière, hein, sous aucun prétexte nous ne devons négliger cette dimension, la première. Hein. Et si nous ne suivons pas Jésus dans sa prière, alors nous ne pouvons plus être des disciples missionnaires. Hein, c'est certain. Alors, comme l'Église est attaquée, comme l'Église est attaquée spécialement dans la personne des disciples fervents, eh bien, nous devons orienter l'Église et dans notre propre personne, dans une intimité plus grande encore, avec Jésus en prière. Ouais. Et quel que soit le climat de notre prière, plus nous nous sentons pauvres et dépourvus, plus il faut suivre Jésus dans la montagne et prier. Ça, c'est le premier élément. Il n'y a pas d'autre recette que celle que Jésus a enseignée à ses apôtres. Et puis, dans la tempête, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il dort. Il dort sur le coussin. Et rappelez-vous ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit à ce propos. Hein. Bon, évidemment, elle a souffert, elle aussi, de sentir le silence de Jésus, parfois. Mais elle en est venue à découvrir la signification de ce sommeil de Jésus. Et elle dit, il y a peu de gens qui aiment suffisamment Jésus pour le laisser dormir. Il est fatigué. Ça veut dire que nous autres qui veillons de la prière, nous savons que Jésus veille. Il faut aller jusque-là. Il faut savoir que c'est lui qui dirige l'Église, et c'est lui qui calme la tempête. C'est lui qui permet la tempête et c'est lui qui va la calmer. Mmh. homme de double foi. Et dans cette épreuve, notre foi grandit, notre amour pour Jésus grandit. Et souvent pensé, bien sûr, au cours de cette épreuve qui nous agite tous là, depuis des mois, j'ai souvent pensé à ce progrès, à cette maturité qui nous est proposée et dans laquelle nous sommes conduits. Nous sommes conduits à une plus grande maturité dans la foi. Dans la foi, hein. C'est-à-dire, nous n'aimons pas Dieu, nous n'aimons pas Jésus à cause du bien-être. Nous n'aimons pas Jésus parce que tout va bien. Nous n'aimons pas Jésus parce que nous voyons une certaine forme de progrès dans la société. Non. Nous aimons Jésus parce qu'il est Jésus. Et quand on n'a plus d'autre motif d'aimer Dieu que Dieu lui-même, notre foi devient plus mûre, plus pure, plus forte aussi. Et c'est le témoignage de cette foi-là qui est demandé aux disciples missionnaires. Non pas une foi présomptueuse, orgueilleuse, mais une foi toute pauvre, toute accablée aussi, mais une foi qui n'a pas d'autre appui que Dieu lui-même. Dieu va venir, Dieu va descendre, Dieu est bon, Dieu aime les pauvres. Dieu a acheté Satan pour toujours. Dieu est victorieux, le Christ est victorieux, le Christ est roi. Et il nous a donné part à sa victoire, et il nous conduit dans la béatitude du ciel. Et nous, nous allons vers cette terme. Nous allons vers un terme de bonheur. Et nous irons à travers tous les méandres du monde. Mais nous irons d'une façon paisible comme possible. Encore une fois, pas avec une paix présomptueuse qui aime à se montrer en disant « Voyez-vous, vous êtes malheureux, nous, nous sommes heureux. » Non, non. Mais, voilà, nous irons avec la paix profonde, qui est au-dessous, au-delà des vagues de la surface. Ça veut dire que nous pouvons éprouver beaucoup, beaucoup de vagues à la surface, beaucoup d'agitation, mais lorsque nous nous refoulons dans la prière, le Seigneur nous donne la paix. Mais c'est ça le paradoxe de la vie chrétienne.
Merci Père pour ces paroles de présence.
Voilà. Est-ce que nous allons pouvoir peut-être confier à la Sainte Vierge, j'ai pas dit la prière à l'Immaculée Conception hier, mais je peux la dire maintenant pour conclure notre entretien. Et puis en vous remerciant, je ne sais pas s'il y aura d'autres possibilités de se retrouver, mais je veux vous remercier d'avoir relevé ce merveilleux défi d'une retraite à domicile ou à Pignolet avec la petite équipe. Et je confie toutes vos intentions à la Sainte Vierge. Oui. Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation, ni de l'esclavage du péché, ni du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô Mère de Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance. Ainsi soit-il. Absolument, merci à tous.
Merci beaucoup, Pernode. À chacun des participants. Alors, Pernode, vous proposiez de vous rendre disponible cet après-midi si certains voulaient poursuivre l'échange. Alors, je ne sais pas si c'est une proposition qui peut répondre aussi aux besoins de certains des participants.